Comme dans un livre, Marie-Christine Loubry. Les liaisons dangereuses, de Pierre Chauderlot de Laclos. Lettre 92. Le chevalier Danceny au vicomte de Valmont. Oh, mon ami, votre lettre m'a glacé d'effroi. Cécile, oh Dieu, est-il possible? Cécile ne m'aime plus. Oui, je vois cette affreuse vérité à travers le voile dont votre amitié l'entoure. Vous avez voulu me préparer à recevoir ce coup mortel. Je vous remercie de vos soins, mais peut-on en imposer à l'amour? Il court au-devant de ce qui l'intéresse. Il n'apprend pas son sort, il le devine. Je ne doute plus du mien. Parlez-moi sans détour, vous le pouvez, et je vous en prie. Mandez-moi tout, ce qui a fait naître vos soupçons, ce qui les a confirmés. Les moindres détails sont précieux. Tâchez surtout de vous rappeler ses paroles. Un mot pour l'autre peut changer toute une phrase. Le même a quelquefois deux sens. Vous pouvez vous être trompé. Hélas, je cherche à me flatter encore. Que vous a-t-elle dit? Me fait-elle quelques reproches? Au moins ne se défend-elle pas de ses torts? J'aurais dû prévoir ce changement par les difficultés que depuis un temps elle trouve à tout. L'amour ne connaît pas tant d'obstacles. Quel parti dois-je prendre? Que me conseillez-vous? Si je tentais de la voir, cela est-il donc impossible? L'absence est si cruelle, si funeste, et elle a refusé un moyen de me voir. Vous ne me dites pas quel il était. S'il y avait en effet trop de danger, elle sait bien que je ne veux pas qu'elle se risque trop. Mais aussi je connais votre prudence. Et pour mon malheur, je ne peux pas ne pas y croire. Que vais-je faire à présent? Comment lui écrire? Si je lui laisse voir mes soupçons, ils la chagrineront peut-être. Et s'ils sont injustes, me pardonnerai-je de l'avoir affligée? Si je les lui cache, c'est la tromper, et je ne sais point dissimuler avec elle. Oh, si elle pouvait savoir ce que je souffre, ma peine la toucherait. Je la connais sensible, elle a le cœur excellent, et j'ai mille preuves de son amour. Trop de timidité, quelque embarras, elle est si jeune. Et la mère la traite avec tant de sévérité. Je vais lui écrire, je me contiendrai. Je lui demanderai seulement de s'en remettre entièrement à vous. Quand même elle refuserait encore, elle ne pourra pas au moins se fâcher de ma prière. Et peut-être elle consentira. Vous, mon ami, je vous fais mille excuses, et pour elle, et pour moi. Je vous assure qu'elle sent le prix de vos soins et qu'elle en est reconnaissante. Ce n'est pas méfiance, c'est timidité. Ayez de l'indulgence, c'est le plus beau caractère de l'amitié. La vôtre m'est bien précieuse, et je ne sais comment reconnaître tout ce que vous faites pour moi. Adieu, je vais écrire tout de suite. Je sens toutes mes craintes revenir. Qui m'eût dit que jamais il m'en coûterait de lui écrire? Hélas, hier encore, c'était mon plaisir le plus doux. Adieu, mon ami, continuez-moi vos soins et plaignez-moi beaucoup. Lettre 93. Le chevalier Danceny à Cécile Volanges, jointe à la précédente. Je ne puis vous dissimuler combien j'étais affligée en apprenant de Valmont le peu de confiance que vous continuez à avoir en lui. Vous n'ignorez pas qu'il est mon ami, qu'il est la seule personne qui puisse nous rapprocher l'un de l'autre. J'avais cru que ces titres seraient suffisants auprès de vous. Je vois avec peine que je me suis trompée. Puis j'espérais qu'au moins vous m'instruirez de vos raisons. Ne trouverez-vous pas encore quelques difficultés qui vous en empêcheront? Je ne puis cependant deviner, sans vous, le mystère de cette conduite. Je n'ose soupçonner votre amour, sans doute aussi vous n'oseriez trahir le mien. Ah, Cécile, il est donc vrai que vous avez refusé un moyen de me voir? Un moyen simple, commode et sûr? Danceny ne sait pas quel était ce moyen. Il répète seulement l'expression de Valmont. Et c'est ainsi que vous m'aimez? Une si courte absence a bien changé vos sentiments. Mais pourquoi me tromper? Pourquoi me dire que vous m'aimez toujours, que vous m'aimez davantage? Votre maman, en détruisant votre amour, a-t-elle aussi détruit votre candeur? Si au moins elle vous a laissé quelque pitié, vous n'apprendrez pas sans peine les tourments affreux que vous me causez. Ah, je souffrirai moins pour mourir. Dites-moi donc, votre cœur m'est-il fermé sans retour? M'avez-vous entièrement oublié? Grâce à vos refus, je ne sais ni quand vous entendrez mes plaintes, ni quand vous y répondrez. L'amitié de Valmont avait assuré notre correspondance. Mais vous, vous n'avez pas voulu. Vous la trouviez pénible. Vous avez préféré qu'elle fût rare. Non, je ne croirai plus à l'amour, à la bonne foi. Et qui peut-on croire si Cécile m'a trompée ? Répondez-moi donc, est-il vrai que vous ne m'aimez plus ? Non, cela n'est pas possible. Vous faites illusion, vous calomniez votre cœur. Une crainte passagère, un moment de découragement, mais que l'amour a bientôt fait disparaître. N'est-il pas vrai, ma Cécile ? Ah, sans doute, j'ai tort de vous accuser, que je serais heureux d'avoir tort, que j'aimerais vous faire de tendres excuses, à réparer ce moment d'injustice par une éternité d'amour. Cécile, Cécile, ayez pitié de moi, consentez à me voir, prenez-en tous les moyens. Voyez ce que produit l'absence, des craintes, des soupçons, peut-être de la froideur. Un seul regard, un seul mot, et nous serons heureux. Mais quoi ? Puis-je encore parler de bonheur ? Peut-être est-il perdu pour moi, perdu pour jamais ? Tourmenté par la crainte, cruellement pressé entre les soupçons injustes et la vérité plus cruelle, je ne puis m'arrêter à aucune pensée. Je ne conserve d'existence que pour souffrir et vous aimer. Ah, Cécile, vous seule avez le droit de me la rendre chère. Et j'attends du premier mot que vous prononcerez le retour du bonheur ou la certitude d'un désespoir éternel. Lettre 94. Cécile de Volanges au chevalier Danceny. Je ne conçois rien à votre lettre, sinon la peine qu'elle me cause. Qu'est-ce que M. de Valmont vous a donc mandé, et qu'est-ce qui a pu vous faire croire que je ne vous aimais plus ? Cela serait peut-être bien heureux pour moi, car sûrement j'en serais moins tourmentée. Et il est bien dur, quand je vous aime comme je fais, de voir que vous croyez toujours que j'ai tort, et qu'au lieu de me consoler, ce soit de vous que me viennent toujours les peines qui me font le plus de chagrin. Vous croyez que je vous trompe et que je vous dis ce qui n'est pas. Vous avez là une jolie idée de moi. Mais quand je serai menteuse, comme vous le me reprochez, quel intérêt y aurais-je ? Assurément, si je ne vous aimais plus, je n'aurais qu'à le dire, et tout le monde m'en louerait. Mais par malheur, c'est plus fort que moi. Et il faut que ce soit pour quelqu'un qui ne m'en a pas d'obligation du tout. Qu'est-ce que j'ai donc fait pour tant vous fâcher ? Je n'ai pas osé prendre une clé parce que je craignais que maman ne s'en aperçût et que cela ne me causât encore du chagrin, et à vous aussi, à cause de moi. Et puis encore, parce qu'il me semble que c'est mal fait. Mais ce n'était que M. de Valmont qui m'en avait parlé. Je ne pouvais pas savoir si vous le vouliez ou non, puisque vous n'en saviez rien. À présent que je sais que vous le désirez, est-ce que je refuse de la prendre, cette clé ? Je la prendrai dès demain, et puis nous verrons ce que vous aurez encore à dire. Monsieur de Valmont a beau être votre ami, je crois que je vous aime bien autant qu'il peut vous aimer, pour le moins. Et cependant, c'est toujours lui qui a raison, et moi j'ai toujours tort. Je vous assure que je suis bien fâchée. Ça vous est bien égal, parce que vous savez que je m'apaise tout de suite. Mais à présent que j'aurai la clé, je pourrai vous voir quand je voudrai. Et je vous assure que je ne voudrais pas quand vous agirez comme ça. J'aime mieux avoir du chagrin qui me vienne de moi que s'il me venait de vous. Voyez ce que vous voulez faire. Si vous vouliez, nous nous aimerions tant, et au moins n'aurions-nous de peine que celle qu'on nous fait. Je vous assure bien que si j'étais maîtresse, vous n'auriez jamais à vous plaindre de moi. Mais si vous ne me croyez pas, nous serons toujours bien malheureux, et ce ne sera pas ma faute. J'espère que bientôt nous pourrons nous voir, et qu'alors nous n'aurons plus d'occasion de nous chagriner comme à présent. Si j'avais pu prévoir ça, j'aurais pris cette clé tout de suite. Mais en vérité, je croyais bien faire. Ne m'en voulez donc pas, je vous en prie. Ne soyez plus triste, et aimez-moi toujours autant que je vous aime. Alors je serai bien contente. Adieu, mon cher ami. Lettre 95. Cécile Volanges au vicomte de Valmont. Je vous prie, monsieur, de bien avoir la bonté de me remettre cette clé que vous m'aviez donnée pour mettre à la place de l'autre. Puisque tout le monde le veut, il faut bien que j'y consente aussi. Je ne sais pas pourquoi vous avez mandé à M. Danceny que je ne l'aimais plus. Je ne crois pas vous avoir jamais donné lieu de le penser. Et cela lui a fait bien de la peine, et à moi aussi. Je sais bien que vous êtes son ami, mais ce n'est pas une raison pour le chagriner, ni moi non plus. Vous me feriez bien plaisir de lui demander le contraire, la première fois que vous lui écrirez, et que vous en êtes sûr, car c'est en vous qu'il a le plus confiance. Et moi, quand j'ai dit une chose et qu'on ne la croit pas, je ne sais plus comment faire. Pour ce qui est de la clé, vous pouvez être tranquille. J'ai bien retenu tout ce que vous me recommandiez dans votre lettre. Cependant, si vous l'avez encore et que vous vouliez me la donner en même temps, je vous promets que j'y ferai bien attention. Si ce pouvait être demain en allant dîner, je vous donnerai l'autre clé après-demain à déjeuner et vous me la remettriez de la même façon que la première. Je voudrais bien que cela ne fût pas long, parce qu'il y aurait moins de temps à risquer que maman s'en aperçût. Et puis, quand une fois vous aurez cette clé-là, vous aurez bien la bonté de vous en servir aussi pour prendre mes lettres. Et comme cela, M. Danceny aura plus souvent de mes nouvelles. Il est vrai que ce sera bien plus commode qu'à présent. Mais c'est que d'abord, cela m'a fait trop peur. Je vous prie de m'excuser, et j'espère que vous n'en continuerez pas moins d'être aussi complaisant que par le passé. J'en serai aussi toujours bien reconnaissante. J'ai l'honneur d'être, monsieur, votre très humble et très obéissante servante. Lettre 96. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Je parie bien que depuis votre aventure, vous attendez chaque jour mes compliments et mes éloges. Je ne doute même pas que vous n'ayez pris un peu d'humeur de mon long silence. Mais que voulez-vous ? J'ai toujours pensé que quand il n'y avait plus que des louanges à donner à une femme, on pouvait s'en reposer sur elle et s'occuper d'autre chose. Cependant, je vous remercie pour mon compte et vous félicite pour le vôtre. Je veux bien même, pour vous rendre parfaitement heureuse, convenir que pour cette fois, vous avez surpassé mon attente. Après cela, voyons si de mon côté, j'aurais du moins rempli la vôtre en partie. Ce n'est pas de Madame de Tourvel dont je veux vous parler. Sa marche trop lente vous déplaît. Vous n'aimez que les affaires faites. Les scènes filées vous ennuient. Et moi, jamais je n'avais goûté le plaisir que j'éprouve dans ces lenteurs prétendues. Oui, j'aime avoir à considérer cette femme prudente, engagée, sans s'en être aperçue, dans un sentier qui ne permet plus de retour, et dont la pente rapide et dangereuse l'entraîne malgré elle, et la force à me suivre. Là, effrayée du péril qu'elle court, elle voudrait s'arrêter et ne peut se retenir. Ses soins et son adresse peuvent bien rendre ses pas moins grands, mais il faut qu'ils se succèdent. Quelquefois, n'osant fixer le danger, elle ferme les yeux, et se laissant aller, s'abandonne à mes soins. Plus souvent, une nouvelle crainte ranime ses efforts dans son effroi mortel. Elle veut tenter encore de retourner en arrière. Elle épuise ses forces pour gravir péniblement un court espace. Et bientôt, un magique pouvoir la replace plus près de ce danger que vainement elle avait voulu fuir. Alors, n'ayant plus que moi pour guide et pour appui, sans songer à me reprocher davantage une chute inévitable, elle m'implore pour la retarder. Les ferventes prières, les humbles supplications, tout ce que les mortels, dans leur crainte, offrent à la divinité, c'est moi qui les reçois d'elle. Et vous voulez que, sourd à ses vœux, et détruisant moi-même le culte qu'elle me rend, j'emploie à précipiter la puissance qu'elle invoque pour la soutenir? Ah, laissez-moi du moins le temps d'observer ces touches en combat entre l'amour et la vertu. Et quoi, ce même spectacle qui vous fait courir au théâtre avec empressement, que vous y applaudissez avec fureur, le croyez-vous moins attachant dans la réalité? C'est le sentiment d'une âme pure et tendre, qui redoute le bonheur qu'elle désire et ne cesse pas de se défendre, même alors qu'elle cesse de résister. Vous les écoutez avec enthousiasme. Ne serait-il sans prix que pour celui qui les fait naître? Voilà pourtant, voilà les délicieuses jouissances que cette femme céleste m'offre chaque jour. Et vous me reprochez d'en savourer les douceurs. Ah, le temps ne viendra que trop tôt, où, dégradée par sa chute, elle ne sera plus pour moi qu'une femme ordinaire. Mais j'oublie, en vous parlant d'elle, que je ne voulais pas vous en parler. Je ne sais quelle puissance m'y attache, m'y ramène sans cesse, même alors que je l'outrage. Écartons sa dangereuse idée, que je redevienne moi-même pour traiter un sujet plus gai. Il s'agit de votre pupille, à présent devenue la mienne, et j'espère qu'ici, vous allez me reconnaître. Depuis quelques jours, mieux traitée par ma tendre dévote, et par conséquent moins occupée d'elle, j'avais remarqué que la petite Volange était en effet fort jolie, et que s'il y avait de la sottise à en être amoureux comme Danceny, peut-être n'y en avait-il pas moins de ma part à ne pas chercher auprès d'elle une distraction que ma solitude me rendait nécessaire. Il me parut juste aussi de me payer des soins que je me donnais pour elle. Je me rappelais en outre que vous me l'aviez offerte avant que Danceny eût rien à y prétendre. Et je me trouvais fondée à réclamer quelques droits sur un bien qu'il ne possédait qu'à mon refus et par mon abandon. La jolie mine de la petite personne, sa bouche si fraîche, son air enfantin, sa gaucherie même fortifiaient ses sages réflexions. Je résolus d'agir en conséquence, et le succès a couronné l'entreprise. Déjà, vous chercherez par quels moyens j'ai supplanté sitôt l'amant chéri. Quelle séduction convient à cet âge, à cette expérience ? Épargnez-vous tant de peines, je n'en ai employé aucune. Tandis que, maniant avec adresse les armes de votre sexe, vous triomphiez par la finesse, moi, rendant à l'homme ses droits imprescriptibles, je subjuguais par l'autorité. Sûr de saisir ma proie si je pouvais la joindre, je n'avais besoin de ruse que pour m'en approcher, et même celle dont je me suis servi ne mérite presque pas ce nom. Je profitais de la première lettre que je reçus de Danceny pour sa belle, et après l'en avoir averti par le signal convenu entre nous, au lieu de mettre mon adresse à la lui rendre, je la mis à n'en pas trouver le moyen. Cette impatience que je faisais naître, je feignais de la partager, et après avoir causé le mal, j'indiquais le remède. La jeune personne habite une chambre dont une porte donne sur le corridor, mais comme de raison, la mère en avait pris la clé. Il ne s'agissait que de s'en rendre maître. Rien de plus facile dans l'exécution. Je ne demandais que d'en disposer 2 heures et je répondais d'en avoir une semblable. Alors correspondance, entrevue, rendez-vous nocturne, tout devenait commode et sûr. Cependant, le croiriez-vous, l'enfant timide prit peur et refusa. Un autre s'en serait désolé. Moi, je n'y vis que l'occasion d'un plaisir plus piquant. J'écrivis à Danceny pour me plaindre de ce refus et je fis si bien que notre étourdi n'eut de cesse qu'il n'eût obtenu, exigé même de sa craintive maîtresse, qu'elle accorda ma demande et se livra tout à ma discrétion. J'étais bien aise, je l'avoue, d'avoir ainsi changé de rôle, et que le jeune homme fît pour moi ce qu'il comptait que je ferais pour lui. Cette idée doublait à mes yeux le prix de l'aventure. Aussi, dès que j'ai eu la précieuse clé, me suis-je hâtée d'en faire usage. C'était la nuit dernière. Après m'être assurée que tout était tranquille dans le château, armée de ma lanterne sourde et dans la toilette que comportait l'heure et qui exigeait la circonstance, j'ai rendu ma première visite à votre pupille. J'avais tout fait préparer, et cela par elle-même, pour pouvoir entrer sans bruit. Elle était dans son premier sommeil, et dans celui de son âge, de façon que je suis arrivée jusqu'à son lit sans qu'elle se soit réveillée. J'ai d'abord été tentée d'aller plus avant et d'essayer de passer pour un songe, mais craignant l'effet de la surprise et le bruit qu'elle entraîne, j'ai préféré d'éveiller avec précaution la jolie dormeuse, et je suis en effet parvenue à prévenir le cri que je redoutais. Après avoir calmé ses premières craintes, comme je n'étais pas venue là pour causer, j'ai risqué quelques libertés. Sans doute on ne lui a pas bien appris dans son couvent à combien de périls divers est exposée la timide innocence, et tout ce qu'elle a à garder pour n'être pas surprise. Car portant toute son attention, toutes ses forces à se défendre d'un baiser, qui n'était qu'une fausse attaque, tout le reste était laissé sans défense, le moyen de ne pas en profiter. J'ai donc changé ma marche et sur le champ j'ai pris poste. Ici nous avons pensé être perdus tous deux. La petite fille, tout effarouchée, a voulu crier de bonne foi. Heureusement, sa voix s'est éteinte dans les pleurs. Elle s'était jetée aussi au cordon de la sonnette, mais mon adresse a retenu son bras à temps. « Que voulez-vous faire ? » lui ai-je dit alors. « Vous perdre pour toujours ? Qu'on vienne ? Et que m'importe ? À qui persuaderez-vous que je ne sois pas ici de votre aveu ? Quel autre que vous m'aura fourni le moyen de m'y introduire ? Et cette clé que je tiens de vous, que je n'ai pu avoir que par vous, vous chargerez-vous d'en indiquer l'usage ? » Cette courte harangue n'a calmé ni la douleur ni la colère, mais elle a amené la soumission. Je ne sais pas si j'avais le don de l'éloquence. Au moins est-il vrai que je n'en avais pas le geste. Une main occupée pour la force, l'autre pour l'amour, quel orateur pourrait prétendre à la grâce en pareille situation ? Si vous vous la peignez bien, vous conviendrez qu'au moins elle était favorable à l'attaque. Mais moi, je n'entends rien à rien, et comme vous dites, la femme la plus simple, une pensionnaire, me mène comme un enfant. Celle-ci, tout en se désolant, sentait qu'il fallait prendre un parti et entrer en composition. Les prières me trouvant inexorables, il a fallu passer aux offres. Vous croyez que j'ai vendu bien cher ce poste important ? Non, j'ai tout promis pour un baiser. Il est vrai que, le baiser pris, je n'ai pas tenu ma promesse. Mais j'avais de bonnes raisons. Étions-nous convenus qu'il serait pris ou donné ? À force de marchander, nous sommes tombés d'accord pour un second, et celui-là, il était dit qu'il serait reçu. Alors, ayant guidé ses bras timides autour de mon corps et l'appressant de l'un des miens plus amoureusement, le doux baiser a été reçu en effet, mais parfaitement reçu, tellement enfin que l'amour n'aurait pas pu mieux faire. Tant de bonne foi méritait récompense. Aussi ai-je aussitôt accordé la demande. La main s'est retirée, mais je ne sais par quel hasard je me suis trouvé moi-même à sa place. Vous me supposez là bien empressé, bien actif, n'est-il pas vrai ? Point du tout. J'ai pris goût aux lenteurs, vous dis-je. Une fois sûr d'arriver, pourquoi tant presser le voyage ? Sérieusement, j'étais bien aise d'observer une fois la puissance de l'occasion, et je la trouvais ici dénuée de tout secours étranger. Elle avait pourtant à combattre l'amour, et l'amour soutenu par la pudeur ou la honte, et fortifié surtout par l'humeur que j'avais donnée, et dont on avait beaucoup pris. L'occasion était seule, mais elle était là, toujours offerte, toujours présente, et l'amour était absent. Pour assurer mes observations, j'avais la malice de n'employer de force que ce qu'on en pouvait combattre. Seulement si ma charmante ennemie, abusant de ma facilité, se trouvait prête à m'échapper, je la contenais par cette même crainte, dont j'avais déjà éprouvé les heureux effets. Eh bien, sans autre soin, la tendre amoureuse, oubliant ses serments, a cédé d'abord et finit par consentir. Non pas qu'après ce premier moment, les reproches et les larmes ne soient revenus de concert. J'ignore s'ils étaient vrais ou feints. Mais comme il arrive toujours, ils ont cessé dès que je me suis occupée à y donner lieu de nouveau. Enfin, de faiblesse en reproche et de reproche en faiblesse, nous ne nous sommes séparés que satisfaits l'un de l'autre, et également d'accord pour le rendez-vous de ce soir. Je ne me suis retirée chez moi qu'au point du jour, et j'étais rendue de fatigue et de sommeil. Cependant, j'ai sacrifié l'un et l'autre au désir de me trouver ce matin au déjeuner. J'aime, de passion, les mines de lendemain. Vous n'avez pas idée de celle-ci. C'était un embarras dans le maintien, une difficulté dans la marche, des yeux toujours baissés, et si gros, et si battus. Cette figure si ronde s'était tant allongée. Rien n'était si plaisant. Et pour la première fois, sa mère, alarmée de ce changement extrême, lui témoignait un intérêt assez tendre. Et la présidente aussi, qui s'empressait autour d'elle. « Oh, pour ces soins-là, ils ne me sont que prêtés. Un jour viendra où on pourra les lui rendre, et ce jour n'est pas loin. Adieu, ma belle amie. »